Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Je vous salue sans plus tarder, Don Félix-Henri Bouquet-Deschaux, et bonjour.
Bonjour Nathalie.
Voilà, c'est le dernier rendez-vous. Merci de votre fidélité, puis merci dans votre oui, puisque vous avez dit oui il y a bientôt 5 ans dans votre sacerdoce. Nous vous souhaitons vraiment un beau ministère et une belle mission. Et vous êtes donc auteur de ce livre que nous avons un peu découvert, « La vérité a-t-elle besoin de la foi ?» Alors pour conclure cette série des clés pour vivre qui nous invite à nous questionner, à nous interroger, à mettre peut-être en activité aussi et en travail notre conscience, notre rapport aussi à l'autre et notre rapport peut-être dans cette relation ou non avec le Christ devant cet événement et ce mystère de la résurrection dont vous avez parlé hier et vous en parlez dans votre livre. Vous terminez avec cet épilogue qui s'intitule « Une vérité qui rend libre ». Voilà, quelques mots sur cet épilogue.
Dans l'épilogue, j'essaye de mettre en parallèle l'héroïne d'un roman à succès de Sally Rooney, qui est une romancière irlandaise qui a été traduite dans le monde entier, même un de ses romans qui était adapté en série Netflix. Et donc je parle de son roman là, Où es-tu monde admirable, très beau roman que je vous recommande aussi. Et dedans, voilà, elle met en scène une jeune femme de 30 ans qui fait un premier bilan sur sa vie et qui écrit ceci à une de ses amies. Voilà, je cite « J'ai envie de vivre autrement ou s'il le faut de mourir pour que d'autres puissent un jour vivre autrement. Mais quand je cherche sur Internet, je ne vois pas beaucoup d'idées qui vaillent la peine de mourir. » Et en fait, je trouve ça très beau ce passage. Parce que ça montre, je pense, que nous sommes face à une jeunesse qui a envie de donner sa vie, mais qui ne trouve aucune raison pour laquelle il vaille la peine de la donner. Et effectivement, c'est que si Alice ne trouve pas les raisons pour lesquelles donner sa vie, c'est qu'elle ne cherche pas au bon endroit. C'est que ce n'est pas sur Internet qu'il faut chercher, encore une fois, mais c'est dans l'Évangile. Et je mets en contraste ce personnage Alice avec Saint Jean-Baptiste, qui donne sa vie, quand même, il faut se le rappeler, qui donne sa vie parce qu'il a dénoncé le concubinage entre Hérode et qui vit avec la femme de son frère. Enfin, quand on y pense et qu'on prend un peu de recul, Saint Jean-Baptiste perd la tête pour avoir osé, perd la tête au sens propre du terme, parce qu'on lui coupe. Il est mis à mort parce qu'il a dénoncé cette vérité morale. Et je trouve ça assez impressionnant de me dire que les Alice de notre temps ne trouvent pas de raison pour laquelle donner sa vie, et Saint Jean-Baptiste la donne pour une raison qui nous apparaît avec du recul aujourd'hui comme une raison assez futile. Qui oserait perdre la tête aujourd'hui parce qu'il s'oppose au divorce, parce que... je me suis posé la question en méditant un peu là-dessus et je me dis ce serait absurde. Et si Saint Jean-Baptiste a pu le faire, c'est parce qu'il était fermement convaincu de la vérité qu'il professait, parce qu'il avait rencontré son cousin, le Christ. Il avait été illuminé par l'Esprit-Saint dans le ventre de sa mère. Et donc, parce qu'il a adhéré fermement à cette vérité-là qu'il professait, parce qu'il l'a vécu dans sa chair, il a été capable de donner sa vie librement pour cette même vérité. Et c'est là où on voit finalement la grande différence entre la vérité scientifique et la vérité de foi. C'est que la vérité scientifique, c'est une vérité qui peut être dite, qui peut être professée, mais qui à aucun moment n'est vécue. C'est toute la différence avec la vérité chrétienne. C'est que la vérité chrétienne, c'est une vérité qui ne doit pas se contenter d'être dite, d'être lue, d'être sue, d'être crue. C'est une vérité qui doit aussi être vécue. Et à partir du moment où elle est vécue, où elle vient transformer notre vie, notre être, alors on peut donner sa vie pour elle. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, c'est pour toutes les Alice de notre temps qui cherchent une raison pour laquelle donner sa vie. Et j'ai envie de leur dire,
c'est toute cette c'est toute cette jeunesse trentenaire aussi, oui, qui face à l'avenir qui est incertain doute, oui, et paradoxalement cette jeunesse là trentenaire, ils ont soif de se donner,
bien sûr,
et ils ne savent pas comment se donner.
Ouais, effectivement, ouais, il y a une très grande générosité, et puis moi je le vois aussi avec les adolescents que je peux accompagner, les étudiants, il y a une très très grande générosité dans cette jeunesse, mais c'est juste qu'il faut les aider à bien l'orienter pour qu'il se donne pour les bonnes raisons et qu'il trouve des raisons valables pour lesquelles se donner. Surtout ça.
Alors, on les accompagne comment, ces jeunes ?
Eh bien...
Pour bien les orienter. Ouais, et les orienter comment ? Voilà.
Oui.
Ouais.
Eh ben,
c'est moi, des lieux de vie, c'est l'accompagnement spirituel.
Alors, je pense que ça passe beaucoup par les aumôneries. Je pense que c'est important qu'ils sentent qu'ils ne sont pas les seuls à croire. Souvent, sur leur lieu d'études ou dans leurs établissements scolaires, fussent-ils catholiques, ils font l'expérience qu'ils sont quand même d'une certaine solitude avec leur foi. Et donc, ils ont besoin de lieux où ils sentent que ce n'est pas bizarre de croire, d'être chrétien, d'être catholique. Et ça, l'aumônerie, avec des réunions régulières en groupe, où on prie, où on se laisse enseigner, je pense est un bon lieu pour ça, de communauté, en fait, de découvrir cette dimension communautaire de la foi chrétienne. Et puis surtout, ça passe aussi par la formation d'une liberté. Voilà, sur tout ça. C'est-à-dire que c'est pas leur dire il faut faire ça pour donner sa vie pour Jésus, mais c'est plutôt aller les interroger, aller les titiller justement. C'est le cardinal Suard, hein, ancien archevêque de Paris, qui définissait le prêtre comme étant un ministre de l'inquiétude. Et je trouve cette définition très juste. C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'aller titiller leur conscience pour ne pas les laisser tranquilles, en fait. Mais après, c'est à eux de faire leur choix, bien sûr. Mais c'est à nous de former cette liberté pour qu'ils soient capables de poser un choix libre parce que on les aura aidés à rencontrer le Christ, à rencontrer la vérité qui va les pousser ensuite à y répondre librement en donnant leur vie.
Et donc, pour cette jeunesse, on a besoin, ils ont besoin aussi d'hommes et de femmes, enfin, pas d'acteurs, voilà, mais des Saint Jean-Baptiste. Hein, vous avez évoqué, oui. Vous en parlez dans votre livre, de cette figure de Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a cette radicalité du prophète, hein, cette radicalité du prophète qui n'est pas dans l'espérance, mais qui dans cette relation, il croit tout simplement, il défend cette vérité. Au fond, est-ce que cette jeunesse, hein, est-ce que chacun et chacune qui vous écoute, hein, baptisé ou non baptisé, mais peut-être baptisé, est capable de défendre cette vérité ? Au fond, c'est la grande question. Hein,
Bah, je pense que
me dit ma conscience.
Moi, ce que je dirais, c'est que quand on l'a découverte, je vois pas comment on ne peut pas ne pas la défendre. En fait, je pense que c'est inhérent au concept même de vérité. C'est-à-dire que si la vérité est venue illuminer mon intelligence et ma vie, que je découvre que c'est un trésor qui donne du sens à ma vie, bah, dans ce cas-là, il faut être fou pour ne pas défendre ce trésor qu'on a découvert.
C'est la folie de l'amour.
Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher si loin. Hein. Vous savez, je pense que dans le monde dans lequel nous sommes, il faut de la folie aujourd'hui pour se marier. Il faut de la folie pour avoir une famille nombreuse,
pour
des enfants
prêtre,
au monde.
Hein.
Non, mais en fait, pardon, c'est assez simple. Mais le pape François insiste beaucoup sur les saints de la porte d'à côté. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas en paroisse, dans ma vie, d'en croiser en fait quotidiennement des personnes qui... parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils croient, posent ces actes fous, enfin, aux yeux du monde, hein, parce que c'est voilà, aux yeux du monde, encore de croire que à 24 ans, on peut se marier, oui, c'est jeune, c'est ceci, c'est cela, mais poser cet acte de foi incroyable, de continuer à s'engager, malgré tout ce qui nous invite aujourd'hui à ne pas le faire, à ne pas s'engager, à ne pas se donner. Donc, en fait, je pense qu'on en croise constamment sur les bancs de nos églises et en dehors de personnes qui ont cette folie encore de s'engager, de se donner pour les autres, quand bien même on n'est pas dans un milieu qui soit très porteur.
On a rappelé aussi cet événement qui est le grand événement pour l'humanité, pour le monde, pour chacun. C'est l'événement de la résurrection du Christ. Cette résurrection du Christ a eu lieu, ce grand événement, parce qu'il est passé par cette passion et par la croix. Faut-il nous-mêmes, dans cette quête aussi de chercher la vérité, si on la cherche encore peut-être aujourd'hui, faut-il passer par la quasi épreuve, douleur, pour entrer un peu et suivre le Christ jusqu'au jour de l'événement de sa résurrection? Est-ce que c'est contournable ou non? Voilà, puisqu'on parle aussi de la relation avec le Christ, voilà, hein, qui dit relation avec le Christ, faut-il le suivre aussi dans cette passion?
Alors j'aimerais vous J'aimerais vous répondre que c'est contournable, mais je ne pourrais pas le faire parce que ce n'est pas vrai.
Il n'y a que la vérité qui compte cette semaine.
Et donc, effectivement, je pense que non, le passage par la case passion et croix est un incontournable. En fait, c'est une vérité de tous les temps, mais parce que l'Église professe justement il y a une dimension dans notre foi chrétienne prophétique et pas politique. C'est-à-dire que du point de vue de la prophétie, l'Église a 50 ans d'avance, et du point de vue du monde politique, elle a 10 ans de retard. C'est-à-dire quand on essaye d'avoir des grandes réalisations sociales, politiques, etc. Bon, souvent ça échoue parce qu'on n'a pas les bons outils de communication, Mais en revanche, voilà, lorsque vous lisez aujourd'hui des textes du Concile Vatican II, vous avez l'impression que c'était écrit hier. Parce qu'il y a une dimension actuelle, en fait, très forte.
Et prophétique.
Et prophétique, exactement. Donc je pense que le passage par la croix, quand on décide d'adhérer au Christ et à la vérité, est indispensable parce que cette vérité n'est souvent pas comprise. Ou elle est comprise trop tard. Et vous avez déjà été cloué, quoi. Donc elle est comprise après coup, mais ça fait partie du témoignage, en fait. Vous savez que martyr, ça veut dire témoin. Et donc si effectivement, comme Saint Jean-Baptiste, on croit fermement dans cette vérité que nous professons, alors nous sommes prêts à souffrir pour elle. Et c'est ça qui vient, donner du crédit, à cette vérité qu'on professe.
Alors est-ce qu'on est prêt à se faire décapiter, puisqu'on est encore avec cette grande figure, hein, parce que là on parle de grand prophète aussi, hein, quand on parle de Jean-Baptiste, hein, la question est-ce qu'on est prêt à... aller jusqu'au martyr.
Eh bien, là aussi, j'aimerais vous dire oui, mais...
Restez dans la vérité, je ne veux que la vérité.
Non, en fait, la difficulté, c'est qu'on ne va pas tellement répondre à cette question, parce que lorsqu'on se projette, sans la grâce. C'est-à-dire que la grâce, si vous voulez, nous est toujours donnée pour vivre ce qu'on a à vivre au moment où on a à le vivre. Et donc, je pense que c'est le genre de questions qu'on ne peut pas tellement se poser. Je pense que tout ce qu'on a à faire, c'est de veiller à être fidèle, nous, au quotidien, d'être fidèle à la prière, fidèle à notre vie sacramentelle, essayer d'être fidèle à la messe le dimanche, pour être fidèle le jour où, hypothétiquement, on aura à être fidèle d'une façon plus radicale. Mais je pense que c'est ces petites fidélités du quotidien qui construisent cette grande fidélité de la vie et peut-être un jour cette vie qui nous sera demandée de donner pour lui, pour Jésus. En tout cas, on ne peut pas répondre comme ça dans l'abstrait. Est-ce que je donnerai ma vie? Est-ce que je suis prêt au martyr? Alors, j'ai envie de dire oui, mais enfin, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que la grâce me sera donnée si un jour j'ai à le vivre. Voilà.
Grâce du baptême. Merci à vous infiniment, Don Félix-Henri Bouquet des Choses. C'était donc votre premier passage à la radio. C'est votre premier livre que vous signez aux éditions du Cerf, La vérité a-t-elle besoin de la foi? Un livre donc à lire, hein, je vous le conseille. Je vous remercie, nous vous souhaitons et je vous souhaite tout particulièrement de bien poursuivre votre ministère dans votre diocèse. Je vous invite à poursuivre vraiment votre beau ministère de prêtre dans votre diocèse de Lyon. Merci à vous.
Merci beaucoup, Nathalie.
Au revoir.